Chapitre 33. Dans la vraie vie. Elle a dû répéter au TIC ce qu'elle avait déjà exposé à l'enquêteur. Karine ignore s'ils font exprès afin de pouvoir comparer ses versions ou si elle pallie un manque de communication entre les deux hommes. Elle s'y plie, gendarmerie. Le tas de branchages, la météo du jour en question, l'horaire exact, la découverte de Rémi. Oui, il était seul quand il a mis au jour les premières marches. « Que faisiez-vous à ce moment-là ? » ?»«
Je me désaltérais. »«
Vous pouviez l'apercevoir ? » ?»«
Non, j'étais trop loin. » »«
Pourquoi vous êtes autant éloigné de lui si c'était juste pour vous désaltérer ?» Karine attrape son paquet dans la poche arrière de son short et en sort une cigarette. Elle en propose une au technicien qui décline. Il continue à griffonner des notes sur un calepin en attendant sa justification. Elle avale plusieurs bouffées de nicotine avant de répondre, en regardant le sol.
« Vous buviez une bière à 10h du matin ?»
s'étonne l'adjudant-chef.
« Il faisait déjà chaud. Et vous vous cachez pour boire des bières ?»
Elle tire un peu plus fort sur la bouffée suivante. L'aspect de la terre, des feuilles mortes en partie décomposées, quelques champignons, des mousses, pas de végétation fraîche, il faut dire, sous un tel tas de branchages. L'homme a rangé son sourire séducteur en même temps que ses lunettes de soleil. Il est concentré, attentif, sérieux. Ce qui déstabilise Karine, qui ne s'attendait pas à un tel changement d'attitude. Elle lui fait remarquer sur un ton qui se veut taquin. Il objecte de ne rien devoir laisser au hasard. Des cadavres de bébés, il en a trouvé plus d'un. Qui dans un sac poubelle, qui dans un seau, des corps enterrés ou à peine dissimulés, entiers ou en morceaux, frais ou en état de décomposition avancée, parfois seulement une main au milieu d'une soupe de chair. Si l'affaire est sérieuse et récente, il devra répondre de son expertise auprès du tribunal. Karine réprime un début de nausée en respirant profondément. Elle réalise que ses ossements cachent peut-être une histoire sordide. Elle vient de relier la mort à la vie par un pont jusque-là coupé par l'excitation des fouilles. Et cette prise de conscience est comme un coup de poignard.
Vous avez trouvé des objets en creusant ?
Des bouteilles.
Quelle marque ?
Perrier et Kronenbourg.
Vous les avez gardées ?
Elles sont dans une vieille bassine en zinc, à la ferme.
Évidemment, il maugrait de savoir ces pièces à conviction stockées sans précaution. Un classique quand il arrive sur une scène gelée. Il est d'autant plus énervé quand ce sont des collègues qui ont souillé la zone avec leur ADN, leurs traces de pas, de roues, ou qu'ils ont déplacé le corps. Le SAMU passe encore quand il est question de sauver une victime, mais déplacer un cadavre...
On ne pouvait pas savoir qu'il y avait des os en dessous.
Au moins, vous les avez conservés.
Autre chose ? Une munition.
La douille seule ou avec la balle ?
Complète. Je l'ai frottée pour trouver les inscriptions. Vous pensez bien qu'elle n'était plus trop visible. Elle date de 1938.
Vous n'avez pas froid aux yeux. Elle aurait pu exploser.
Sans chaleur ? Sans pression ?
Le gendarme est étonné qu'elle s'y connaisse en munitions. Karine est tentée d'ajouter « pour une femme ». Mais elle s'abstient. L'ambiance n'est plus à la provocation. Elle lui rappelle son cursus en histoire. Et puis, son premier mari était chasseur. Elle sait donc parfaitement qu'il est illégal de posséder une telle pièce sans qu'elle ait été démilitarisée, au risque d'être accusée de terrorisme pour détention illégale d'armes de guerre. Ils en avaient souri avec Rémi.
Tu crois vraiment que les gendarmes n'ont pas d'autre chat à fouetter que de s'intéresser à ceux qui trouvent une munition de la Deuxième Guerre en creusant dans leur jardin ?
Il rit moins depuis ce matin. Évidemment, vous n'avez aucune photo des différents stades de la fouille.
Juste une ou deux.
Ah, c'est fâcheux. Puis l'homme referme son carnet d'un geste doux. Regarde Karine au fond des yeux. Une étincelle de séduction renaît dans ses iris. Le naturel qui revient au galop. Ou une discrète tentative de manipulation. Karine hésite. Il prend une grande inspiration et lui annonce qu'ils vont avoir besoin d'elle. Le principe est totalement antiprotocolaire et le procureur devra quand même donner son accord après être sorti de ses gonds. Mais si elle veut bien redescendre dans le trou en acceptant la présence d'une caméra vidéo qui filmera tous ses gestes, le technicien
lui serait reconnaissant de pouvoir poursuivre les fouilles sous sa responsabilité. Il s'assure dans la foulée qu'elle a bien une licence en archéologie et des stages à son actif, qu'elle a un casier judiciaire vierge et une conduite irréprochable.
Vous ne me faites pas confiance ?
Vous êtes le témoin numéro un. Par définition, je ne peux pas vous faire confiance. Si on ajoute au tableau votre collègue qui sort de prison, vous comprendrez qu'on marche sur des œufs.
Il ne semble pas bien dangereux.
Vous savez pourquoi il était en tôle ?
J'en sais sûrement plus que vous à propos de ce jeune homme. Vous ne partagez pas son quotidien depuis plusieurs semaines.
Dieu m'en garde. En attendant, je dois lever ce squelette et si vous voulez bien, vous allez m'y aider.
Karine jubile. Que demander de plus ? Aller boire un verre après le chantier et plus si affinité ? Elle doute que cela soit possible. D'abord parce qu'ils sont perdus au bout du monde. Pas de bar après la deuxième à gauche. Ensuite, parce que l'adjudant-chef a sûrement une vraie vie après ses journées de travail. Elle le regarde chercher un numéro dans le répertoire de son téléphone, les sourcils froncés. Il appelle le magistrat devant Karine qui n'en perd pas une miette, éloigne l'appareil de son oreille pour laisser passer l'orage. Ce procureur est expérimenté, efficace mais assez colérique. Tout le monde le sait et s'en arrange. Pas le choix. Oui, il filmera tout. Non, elle n'a pas l'air suspecte. Souhait n'est pas un délinquant, d'après son casier. Le drame était un mauvais concours de circonstances. Oui, il le garde quand même éloigné de la zone. Non, il ne voit pas d'autre solution. À moins que vous veniez creuser vous-même, monsieur le procureur. D'après mes souvenirs, vous êtes plutôt menu.
Karine entend l'homme beugler un « Démerdez-vous, le grand !» avant de raccrocher avec fracas. Il la regarde avec un petit sourire en coin.
Vous osez taquiner le procureur ?
Il faut bien se détendre. Cet homme est sûrement délicieux quand il n'est pas débordé, dit-il en soulevant la rubalise pour inviter Karine à franchir la zone sécurisée.
Donc, moi non plus, je n'ai pas de combinaison blanche intégrale.
Je vous assure que par cette chaleur, vous regretteriez vite de l'avoir enfilé. Maintenant, si l'idée vous excite tant, nous pourrions l'expérimenter dans d'autres circonstances.
Karine a juste le temps de voir l'adjudant Thirier lever les yeux au ciel avant qu'il ne tourne les talons pour chercher les bouteilles et la munition.
Elle se dirige vers la cavité, s'assoit sur la première marche de l'escalier, rentre minutieusement son t-shirt dans son short, tend son portable et son étui à cigarette au TIC, tout en l'écoutant lui exposer les instructions pour la fouille. Il lui explique le fonctionnement du modélisateur 3D, lui précise son prix pour la dissuader de le manipuler à la légère, puis il présente les outils dont elle aura besoin. Il faudra prendre des photos à chaque étape, ce dont il se chargera. Ils devront également remonter les seaux de terre pour la tamiser au fur et à mesure. La nature des différentes couches est importante pour savoir si la matière meuble a été récemment remuée.
Je sais, on raisonne de la sorte en archéologie. Et je peux vous confirmer que le comblement du trou ne date pas d'hier. À partir de la 12e marche, nous avons trouvé des racines de près d'un centimètre de diamètre.
Quelle essence ?
Sûrement les arbres alentour, du noisetier ou du sureau, peut-être du saule.
Vous vous y connaissez en munitions et en botanique. Je suis impressionné.
Voilà plus d'une heure qu'il travaille. La couche d'argile était recouverte d'une strate plus sablonneuse, mais à tendance organique, dominée par une dernière épaisseur d'humus très riche, preuve d'une décomposition lente de la végétation avec le temps. Aucun autre élément dans le tamis. Les bouteilles de bière et de Perrier, disposées sur une bâche propre préalablement étalée au sol, ne sont pas récentes. Une rapide recherche a permis de les situer dans les années 1990. Tout porte à croire qu'on est face à une découverte ancienne, mais Legrand a déjà eu affaire à des scénarios tellement tordus qu'il se méfie. À force de gratter et de dégager l'argile, Karine a fini par mettre en évidence les vestiges d'une grande boîte en fer et des morceaux de tissu en partie conservés. Elle laisse sa place au TIC, qui descend prendre quelques clichés à l'aide d'une perche. Elle demande une pause pour étirer ses bras et ses jambes, fumer et se détendre. Elle commence à souffrir de cette position acrobatique. Il s'assoit un instant à ses côtés et lui explique comment prendre les mesures dans la cavité, pendant qu'elle se frotte les cuisses et les mollets pour enchâsser la terre séchée et désengourdir ses muscles endoloris. On n'a pas un métier facile, hein ?
Les légistes sont beaucoup plus confort que nous, avec une table d'examen réglable en hauteur pour leur petit dos, et la clim pour ne pas avoir trop chaud.
Ils viennent jamais sur le terrain ?
Pas toujours. Les urgences sont classées par ordre d'importance. Ils se déplacent seulement pour les grosses affaires. Nous n'avons pas leur expertise médicale, mais nous avons l'expérience à force pour relever les informations nécessaires au bon déroulement de l'enquête.
Dans les films, on voit toujours le légiste.
Nous travaillons dans la vraie vie.
On y retourne ?